Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Parce que plus rien n'y empêche, il lui dit « Tu as affaire à mon éducation, apprends-moi. » Elle lui baise la poitrine et lui monte jusqu'à son visage. Il sent son corps contre elle, son odeur, son parfum. Il lui dit « Moi aussi je t'aime. » Il la retourne, la met sur lui, lui caresse le dos. Puis, les seins, il lui dit, je t'aime. Elle lui dit, moi aussi. Il lui embrasse ses seins. Ils sont prêts. Tous les deux, ils ont de la fièvre et se dégagent un peu et lui enlèvent le slip. Il se met sur le dos. Elle lui dit, je t'aime. Une heure plus tard, tous deux, ils sont allongés au milieu du lit. Il est dans ses bras. Elle lui dit, je t'aime. J'ai tellement entendu ce moment. Il lui dit, moi aussi. Et ils s'embrassent une dernière fois. Elle lui dit, prépare-toi, il est l'heure. Elle se lève et sort de la chambre. Elle est comblée. Une fois qu'ils ont goûté aux fruits, ils ne peuvent plus s'en passer. Et puis, elle lui dit constamment, tu es mon mari, tu es mon mari. Elle la rejoint tous les soirs dans sa chambre. Et vivent comme mari et femme.
Où êtes-vous allé chercher qu'il y a des
tout
plages
en étant, lui, un adolescent.
Ça, monsieur, j'étais en vacances.
Mais
bonnet, je vous ai mis 13 et demi.
Situation sensible, Laurent Fier. Lui, un jeune de 14 ans et une femme. Mais toujours au lycée.
C'est intelligent, mais un tantinet prétentieux.
En dehors de la maison,
par exemple, Charles
normalement.
Péguy voit la cathédrale comme un phare
grandiose heureuse
et généreux.
Elle ne pense qu'elle a gagné, elle est vraiment revenue.
Où t'étais ?
Siron.
La bonne se rend compte de certaines choses, de certains attouchements, prise de taille, de baisers un peu longs, de rire, de paroles dites à l'oreille, de poignées de main. Un jour qu'elle a vu sa maîtresse, prise à la taille par Frédéric, elle lui dit « Madame, ne devrait pas laisser faire ça, ce n'est pas bien, votre fils est grand. » Et lui dit, ce n'est rien. Elle aimerait s'expliquer à cette fille qu'il n'y a pas péché, que c'est son mari, mais comment ? Les jours passent, Jeanne est heureuse, elle dépense toute son énergie pour le bien-être de son Frédéric, comme une femme mariée.
Pas maintenant, ça ne t'ennuie pas ?
Non, mademoiselle.
Lorsqu'ils sont invités à une soirée, ils restent constamment ensemble. Ils ne dansent qu'ensemble.
Elle est charmante.
Des amis, à une soirée où elle est invitée, une grande dame rousse, un peu forte dans les 40 ans, robe du soir bleu, lui dit « Vous ne trouvez pas que votre fils est un peu jeune pour ce genre de soirée ? Il devrait plutôt sortir avec des jeunes de son âge. Nous parlions avec des amis et de vous et nous disions que vous vous occupiez un peu trop de lui. À son âge, il a besoin d'indépendance. » Jean lui dit, « Mais il a son indépendance. C'est lui et moi qui voulons vivre comme ça. » Elle lui dit, « C'est peut-être pour vous faire plaisir. »
« C'est sérieux ?»
Jean baigne d'un bonheur et ne voit rien. Lui, Frédéric, est heureux. Mais des fois, il a besoin d'autre chose. Lorsqu'il entend parler des jeux de son âge, de sorties, de filles, de concerts, ça lui donne envie. Mais lui vit déjà une vie d'adulte. Les jours passent. Un soir, la bonne, qui avait oublié une de ses vestes de laine qu'elle a pour faire le ménage, monte à l'étage en arrivant à l'étage des chambres. Elle voit Frédéric entrer dans la chambre de sa mère. La bonne va vite poser son oreille à la porte de la chambre.
Non.
Et là, elle entend la mère et le fils se faire des mamours. Mon Dieu, quelle horreur! Vite, elle s'éloigne. Et retourne à sa chambre. Dans son lit, la nuit, elle pense à ce qu'elle a entendu. En plus de l'horreur de la chair, malgré elle, et se sont attirés par cette chose. Ça l'excite, un si beau jeune homme avec cette femme, et s'imagine des choses, et en même temps que ces choses l'excitent, elle est horrifiée. Se réveillant, elle se demande ce qu'elle va faire. Ne rien faire et laisser faire. Partir sans rien dire ou les dénoncer. Ne rien faire et laisser faire, c'est assez excitant. Être leur complice secrète et participer passivement à la monstruosité. Elle soupire et opte plutôt pour cette solution. S'habille, et sort de sa chambre pour aller à la cuisine. Elle trouve la cuisinière qui prépare le petit déjeuner. C'est une femme grosse à cheveux gris, habillée d'une blouse noire. Elle est appelée la mémé jaune. Pourquoi ? Allez donc savoir. Ce nom lui vient du temps où elle était cuisinière dans une cantine scolaire à Lyon dans le quartier du Grand Trou. La bonne se met à table. Elle prend son petit déjeuner que lui a préparé la cuisinière. La cuisinière lui dit : vous avez l'air mal réveillé ? La bonne lui dit : oui, un peu fatigué. J'ai beaucoup réfléchi cette nuit. La cuisinière lui dit : ah, il vous manque un mari. La bonne hausse ses épaules et lui dit : ici, c'est une maison de femmes. Chauffe le chauffeur et M. Frédéric, qui devient mignon comme tout. Les filles vont commencer à être attirées par ici. La bonne lui dit : il ne manquerait plus que ça. Une sonnette a retenti. La bonne dit : c'est madame qui veut son petit déjeuner. Je vais te le préparer. La bonne termine son bol de café, se lève. Et sort de la cuisine.
le porter à la chambre de sa maîtresse.
Entrez,
elle entre. Elle la voit au lit, le visage épanoui, heureuse. Elle sourit. Ce bonheur met en colère la bonne. Elle est furieuse à cause des horreurs qu'elle fait avec son fils. C'est dégoûtant. Elle close le plateau. Sur le lit, Jean dit,
j'ai une de ces femmes.
La bonne est dégoûtée d'avoir fait comme ça. Oh non alors. Elle sort de la chambre. En claquant la porte. C'en est trop ça. Si elle l'avait vue plus discrète de son bonheur. Mais non, heureuse. Non plus. Non, là, c'est de l'indécence, du péché. Elle doit faire quelque chose. Elle monte à sa chambre. Elle réfléchit.
On ne peut pas laisser une chose pareille. Elle est immorale. Elle est immorale, cette femme. Elle se cacherait même pas. Elle pourrait se cacher au moins. Tant pis pour elle.
Elle enlève son tablier, prend sa veste et sort de sa chambre. Une fois dehors, elle marche d'un pas décidé. Ça ne se passera pas comme ça. Et elle entre dans le commissariat du quartier. Elle va à l'accueil. Une femme habillée en flic, cheveux roux.
Vous désirez ?
La bonne lui dit. Parlez au commissaire.
C'est pourquoi ?
Une affaire privée. Ma maîtresse couche avec son fils. La femme flic lui dit.
Bien, je vais voir si monsieur peut vous recevoir.
Le fin numéro.
Allô ? Fernand ? C'est Raymond.
Oui, c'est moi.
Je viens d'être mis au standard. La barbe. La semaine dernière, j'étais au marché.
Oui, c'est la merde.
Vivement la retraite à 45 ans.
Mais j'y ai droit. J'ai un gosse.
Bon, je t'appelle.
Il y a une fille ici.
Elle est en run contre sa maîtresse.
Et elle veut l'accuser. C'est d'inceste.
Oui, elle est bien. Mais pas mon type à moi. Moi, j'aime mieux les plus hauts, grandes et fortes. Question de tempérament. Tu comprends? Quand on a des seins tout petits, on ne sent rien du tout.
Bon, alors, tu l'as fait monter la petite?
Bien, d'accord. À tout à l'heure au bistrot du coin.
Elle raccroche.
Elle dit à la fille,
vous pouvez aller le voir, il est au premier.
Après ce qu'elle a entendu, la pauvre fille est moins énervée. Elle prend les escaliers qui sont sombres et usés en pierre
grenier et longe un couloir sombre avec des portes et des banquettes contre le mur, une lampe pendue au plafond. Une porte s'ouvre. Apparaît un homme petit, costume gris, pâle. Il est maigre, avec des cheveux gris. Il demande, « C'est vous la fille ?» Elle dit, « Oui, monsieur. » Il dit, « Venez, entrez. » Elle entre. Petite pièce minuscule, fenêtre carreau, table de bureau en bois, contre une table. Il y a sur une autre table une machine à écrire, une armoire de rangement en bois, une chaise près de la table. Il lui dit, « Asseyez-vous. » Elle va s'asseoir. Et lui va s'asseoir à son bureau. Il lui dit, « Alors, qu'est-ce qui vous arrive ?» Elle lui dit, « C'est à cause de ma patronne. Elle a des rapports bizarres avec son fils. » Le commissaire lui dit, « Racontez-moi tout ça. » Maintenant, elle se sent gênée. Il lui dit, « Alors, racontez-moi tout ça. Vous êtes disputé avec votre patronne ?» Elle lui dit, « Non, pas du tout. Mais il se passe des choses bizarres. Ma mère a de drôles de rapports avec son fils. Dites-moi tout. Bien, je crois bien, c'est qu'elle couche avec son fils. » Le commissaire demande, son fils à quel âge? 14 ans. Oui, c'est un peu vieux pour coucher avec sa mère. Comment le savez-vous? Eh bien, j'ai vu par hasard le fils aller dans la chambre de sa mère et j'ai entendu. Le commissaire soupire. Bon, vous allez me raconter tout ça. J'ai d'abord me donné le nom de votre maîtresse. Elle lui dit, Jeanne Rivoire. Ah. Il est gêné parce qu'il sait que les Rivoire, ce sont des gens très importants. Il lui dit, dites-moi tout. Et la bonne lui raconte tout. Les mamours avec le fils. La manie qu'elle a de l'appeler son mari. Elle le lave même à cet âge tout de même, etc., etc. Elle lui dit aussi qu'elle était enceinte de son mari juste avant sa mort. C'est peut-être cela qu'il a déréglé. Le commissaire a tout noté sur la machine à écrire. Il lui dit, vous allez me signer votre déclaration. Attention, c'est sous serment. J'espère c'est que vous n'avez pas menti. La bonne lui dit, je suis une fille sérieuse, moi. Il lui tend le papier. Et elle signe. Le commissaire lui dit, écoutez, pour éviter les ennuis, vous allez ne rien dire à personne. Vous allez continuer votre travail comme si de rien n'était. Écoutez, regardez avec discrétion, mais chut, nous allons faire une enquête sérieuse là-dessus. Et une fois qu'elle sera faite, s'il y a lieu, nous vous convoquerons et nous convoquerons votre maîtresse. Là, vous pourrez tout nous dire. Vous êtes d'accord? Elle lui dit, oui monsieur. Elle lui dit, vous comprenez, c'est une affaire sérieuse. On ne peut pas prendre ça comme ça. La famille Rivoire, c'est une grande famille Alors, chut, vous pouvez partir. Elle se lève et quitte le bureau un peu inquiète. Et elle retourne chez sa maîtresse.
Sa maîtresse au salon.
Entrez.
Jean lui dit,
mais où étiez-vous donc? Je vous ai cherché de partout.
La belle lui dit, j'ai dû partir. De suite, ma mère était fatiguée. J'ai dû aller chercher le médecin.
Jean lui demande, j'espère que c'est pas trop grave.
Non, des coliques.
La vie reprend comme si de rien n'était. La bonne surveille épie et voit toujours la même chose. L'amour entre la mère et le fils. Les épis la nuit aussi. Et voit bien le fils aller dans la chambre de la mère. Elle n'a plus de remords d'avoir fait ce qu'elle a fait. Elle en avait un peu au début, mais comme elle voit leur stangène, elle se dit tout de même, ainsi je dis, gentil garçon, faire ça à son âge, il doit être la mère qui doit la dévergonder. La façon de se comporter rend les gens curieux. Et la plupart se disent, on dirait le frère et la sœur. Elles paraissent si jeunes. Ce sont des gosses tous les deux.
Eh, hey, mademoiselle, vous voulez danser?
La lambada?
Ah ouais, pourquoi pas?
Un soir, la mère dit à Frédéric, écoute,
pas mes yeux,
j'aimerais c'est partir à la neige avec toi.
Ce
sera un peu comme un voyage de noces.
Ouais,
et lui dit, oui, ce serait merveilleux. Partons de suite.
Marty.
Jean lui dit, oui, si tu veux,
nous déjà rencontrés.
Dans deux jours.
Rencontrés quand?
Je vais préparer tout ça. Je vais m'arranger. Nous trouvons bien quelque chose dans les Alpes.
Tiens, bois un coup. Approche. Tu peux avoir tout ce que tu veux, tu sais ça?
Ben, c'est romantique.
Elle prépare son départ, téléphone aux hôtels, trouve un chalet à Courchevel qui est libre. Elle réserve. Puis elle téléphone au service relations, réservation des trains. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à faire ses valises. Et le vendredi, ils ont pris le train tous les deux. Le trajet se passe l'un contre l'autre, à se parler à voix basse. Une vieille dame, qui est en face d'eux, un peu forte, cheveux gris, manteau noir, dit à la femme.
« C'est votre fils, madame ?»
Gentil qu'elle dit.
« Non, madame, c'est mon mari. »
La dame rit et dit.
« Vous avez un bien mignon mari, madame. »
Frédéric lui tire la langue. Elle rit. Toutes les deux. Le voyage se passe agréablement. La dame pense que c'est la mère et le fils et qu'ils s'entendent très bien. Ils arrivent à la gare de Moutier.
Correspondance par autocar pour la direction de Pontivy. Départ 18h55. Correspondance par autocar pour la direction.
Il y a du monde, de la neige, il fait froid.
Pour la sortie, je vais emprunter.
Tu m'as dit que je pourrais te demander tout ce que je voulais, je t'en souviens.
Sans poser de questions, ça tient 10 jours. Une promesse, c'est une promesse.
C'est moi de le prouver. Moi, tu sais tout est là-dedans, toutes les instructions avec. Les cartes à poster à la date indiquée.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Sans poser de questions.
Salut.
Ils sortent de la gare.
762 à destination de Redon.
Ils vont prendre un taxi pour aller jusqu'à Courchevel. Courchevel est à peu près à 25 km. Il fait froid, il y a de la neige, mais il fait soleil et le ciel est bleu.
Le chalet se trouve dans le lieu dit le Belvédère, qui est dans le domaine de Courchevel 1650. Il y a trois Courchevel, 1550, 1650 et 1850. Leur chalet se trouve en fin de route du Belvédère, en fin d'alpage et aux abords d'une forêt qui mène plus loin et plus haut. Le chalet se trouve à l'écart de la route, au fond d'un pré, à la limite de la forêt. Bien entendu, c'est recouvert de neige. Le chauffeur les mène le plus loin qu'il peut. Puis va s'arrêter. Ils sortent de voiture, le chauffeur aussi. Il va les aider à prendre les bagages et les mener au chalet qui se trouve à 20 mètres de là. Ils marchent dans la neige, les valises à la main, en évitant qu'elles ne touchent la neige. Ils ont de la neige, disons, qui s'enfonce jusqu'à 15 cm. Le chalet est un petit chalet de montagne de un étage. Le toit est en pente sur le devant. Arrivé devant l'entrée, essoufflé, Jean dit « Les clés sont dans le renfoncement du mur, en haut. » Elle les regarde et les trouve. Elle ouvre la porte. Ils entrent. Elle est claire. Le chalet est meublé campagnard, boiserie, ça sent la cire. Le hall d'entrée a un escalier de bois et deux portes, une pour la cuisine, une pour le séjour. Jean remercie le chauffeur et lui donne un bon pourboire. Merci madame. Et il s'en va. Il regarde les deux pièces du bas. La cuisine, moderne et propre. Ils vont voir l'autre pièce. Séjour, rustique. Avec des doubles rideaux rouges, les meubles sont en bois campagnard et meublés toile de jute rouge. Ils montent jusqu'au premier. Petit couloir. Deux chambres. Ils prendront celle qui est à deux lits. Elle est assez grande, meublée campagnard, lit avec un édredon rouge, armoire de porte sans glace. Se trouve une vieille table de nuit, chaise et un secrétaire. Il y a aussi la salle de bain. Retourne à la chambre. Pour défaire les bagages. Après avoir défait les affaires et changé, est allé à la cuisine.
vous avez amené à manger et à boire. Elle a préparé un petit repas qu'ils prennent à la cuisine. En mangeant, il lui demande, « Maintenant que nous sommes là, qu'allons-nous faire ?» Elle lui dit, « Nous allons être heureux ensemble. » Pour un jeune adolescent de 14 ans, être heureux ensemble, ça ne veut pas dire grand-chose. Il a peur, c'est de s'ennuyer. De 14 ans, ont besoin de copains pour parler de ce qu'ils aiment, même parler de filles. Que de filles elles-mêmes. Ils rêvent plus leur vie, la joie, que la vie réelle, ou plutôt souhaitent la vivre réellement. Ils aimeraient bien avoir une fille pour jouer un peu, mais l'avoir toujours, non. Et puis la fille lui sera tout aussi contraignante que sa mère. Donc, Frédéric a peur de s'ennuyer un peu. Mais heureusement, il y a la neige. Jeanne lui dit, « Nous ferons du ski !» Jeanne est heureuse. Elle va être seule avec son Frédéric, comme dans une île déserte. Ils ont loué des skis et font du ski. Ils ne savent pas très bien en faire. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production. Plus en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morzetti.